France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les cheminots se prononcent massivement contre la réforme ferroviaire. Près de 95% des votants à cette consultation interne rejettent le projet de réforme. Analyse avec Hakim Kasmi dans un instant. On sera en ligne avec Bruno Poncet, qui est secrétaire général de Sudrail. La réforme des institutions, une nouvelle fois au menu du Conseil des ministres, avec cette fois une réduction de 30% du nombre de parlementaires et l'introduction aussi d'une dose de proportionnelle de 15%. Précision de Stéphane Robert. Le taux de chômage enregistré par l'INSEE repart à la hausse au premier trimestre de cette année pour s'établir à 9,2%, un point de conjoncture dans cette édition avec Pierre Coquelin. 60 dirigeants, investisseurs intellectuels de la tech française et mondiale réunis aujourd'hui à l'Élysée. Réunion baptisée Tech for Good, autrement dit pour mettre la technologie au service des biens communs, suivi avec Evan Le Bastard. La mort de Philip Roth, 85 ans, la littérature américaine perd une de ses légendes. Réagit sur son compte Twitter la ministre de la Culture, Marie-Pierre Véraud, a lu pour nous les premiers hommages de la presse américaine ce matin. Nous verrons donc tout cela avec elle et dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Jasbert.
Usagers, clients, consommateurs, cette bataille de mots vaut aussi pour le rail. Il a d'ailleurs signé une tribune en soutien à la lutte des cheminots et il consacre aujourd'hui un livre à cette figure du consommateur. Le sociologue Louis Pinto sera notre invité à partir de 12h55.
C'était donc prévisible, les cheminots se prononcent assez massivement contre cette réforme ferroviaire. Les syndicats publient donc les résultats d'une consultation interne baptisée Vote Action. Près de 95% des votants qui rejettent le projet de réforme et la participation qui atteint plus de 60%. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine Mercier.
Alors qu'est-ce que ça va changer finalement dans ce conflit pour l'évolution, la suite ?
Eh bien écoutez, c'est un signal fort envoyé à la fois au gouvernement et à la direction de la SNCF. 91 000 votants sur 147 000 salariés, c'est dire que la participation et le non à la réforme étaient importants dans cette votation qui a été mise en place par la CGT. Alors désormais, le gouvernement eh bien, se retrouve sous pression alors qu'il doit rencontrer vendredi à Matignon l'intersyndicale pour Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminot. Désormais, le gouvernement doit négocier et écouter l'intersyndicale.
C'est un signal envoyé, on ne peut pas faire une réforme sans les salariés qui sont censés l'appliquer demain. Les cheminots sont des grands professionnels, ils l'ont montré à chaque fois. Ce sont des gens qui sont responsables et conscients. Par contre, leur crainte, qu'elle soit sociale, qu'elle soit technique, professionnelle, économique, ces craintes-là, elles demeurent. Et aujourd'hui, le gouvernement non seulement n'y répond pas, mais jette de l'huile sur le feu. Nous considérons, nous, que c'est un message envoyé au gouvernement qui doit revoir le contenu de sa réforme et qui doit notamment engager de vraies négociations avec les organisations syndicales.
Alors pour l'instant, le gouvernement n'entend pas revoir sa réforme alors que le texte arrive aujourd'hui en discussion au Sénat. Le gouvernement qui indique déjà avoir fait un geste, hein, avec par exemple la reprise de la dette à hauteur de 35 milliards sur 2 ans, alors que la dette de la SNCF atteint aujourd'hui les 46 milliards. D'euros. Sud va plus loin en demandant la démission de Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF. L'intersyndicale doit se retrouver cet après-midi pour mettre en place une stratégie et surtout préparer le rendez-vous à Matignon vendredi avec Édouard Philippe, le Premier ministre.
Hakim Kasmi, merci. Vous étiez avec Mathieu Perrault et aussi avec notre invité qu'on va entendre dans un instant, Bruno Poncet. Signalons d'abord la réaction par tweet de Jean-Luc Mélenchon qui qualifie de magnifique ce résultat du référendum. Si Macron veut essayer avec les Français, qu'il le fasse, dit-il, ce serait mieux que le désordre qu'il a organisé. Fin de citation. Donc on est en ligne avec le secrétaire général de Sudrail, Bruno Poncet. Bonjour.
Bonjour.
Alors on est au 21e jour de grève, je crois, 11e séquence. Quelles conséquences maintenant vous allez tirer cette consultation? Est-ce que vous demandez le départ du PDG? Et pourquoi?
Ouais, évidemment, c'était pas le but premier, mais aujourd'hui on se rend compte qu'après les discours de Pépi qui annonçait 80% de cheminots pour cette réforme, on se rend compte qu'en faisant voter tous les cheminots, vraiment dans un panel très large, et avec beaucoup de cadres aussi, qui ont voté contre cette réforme. Aujourd'hui, M. Pépi n'a plus de légitimité à rester à la tête de l'entreprise.
Alors, attendez, sur ce point, il y a quand même des contestations sur le vote. On dit qu'il y a eu parfois peut-être des bourrages d'urnes, enfin, si on peut dire, puisque c'est une votation, j'imagine, électronique.
Non, pas du tout, c'était vraiment des urnes.
Ah, c'est une votation par urne, d'accord.
Et en plus, alors hier, vous avez vu le discours de M. Krakowicz, je pense qu'en plus, il avait son petit papier, il n'arrivait pas à le lire. Enfin, ce qui s'est réellement passé, c'est que les gens, nous, les a fait émarger, on a demandé le nom, l'immatriculation SNCF, prénom. Des fois, on demandait même dans quel collège ils travaillaient, c'est-à-dire cadre, maîtrise, exécution. Et ensuite, toutes ces listes et démargements, on les a mis de côté pour pas qu'elles tombent entre de mauvaises mains et on les a détruites après. Mais c'était pas du tout du bourrage d'urne. On avait vraiment, entre chaque nom, et en plus, on avait fait ça aussi pour éviter que des gens votent plusieurs fois et tout. Non, ça a vraiment été quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, les gens sont venus spontanément faire, malgré les injonctions de l'entreprise, de empêcher les gens de voter.
Alors, forte participation, effectivement. Donc, je reviens à ma question initiale. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut, conviendrait de faire maintenant du côté de la direction ou du gouvernement?
Déjà, nous, on pense que le gouvernement a intérêt à écouter les cheminots, a tout intérêt à écouter ceux qui font le ferroviaire tous les jours. Aujourd'hui, on se rend compte que les Français sont divisés sur cette réforme parce qu'on leur montre toujours qu'un seul côté, qu'en fin de compte, il y a réellement une désapprobation de cette réforme. Donc déjà, d'un point de vue du gouvernement, nous, on espère qu'il va écouter et entendre les cheminots et les Français. Et derrière, on espère aussi que la direction de l'entreprise a compris le message et que ça va être très compliqué pour M. Pépite de se retrouver en face de nous pour négocier, sachant qu'il n'a pas arrêté de mettre de l'huile sur le feu pendant plusieurs mois.
Enfin bon, alors, le texte est voté par l'Assemblée quand même, et il va aller au Sénat. Il arrive aujourd'hui au Sénat en commission. Est-ce que vous pouvez encore vous satisfaire de cette courte période de négociation, entre les négociations avec la ministre éventuellement, et puis d'amender le texte, notamment par cette discussion au Sénat? Est-ce que ça vous conviendrait comme cadre?
Non, pas du tout, parce qu'en plus on s'est rendu compte dernièrement avec la fuite de mails du cabinet de Pépi, on s'est rendu compte qu'il y avait une manipulation réelle aussi du gouvernement par Pépi, du gouvernement d'une manipulation de cette loi aussi, parce qu'on apprend par exemple que ce qui sera incessible, ça sera juste la holding et peut-être mobilité réseau, mais par contre les autres SA comme fret ou TER ou Gare et Connexion, elles pourront avoir des fonds privés après. Donc on se rend bien compte aujourd'hui que ce travail législatif et démocratique est quand même vicié par le comportement de Monsieur Pépi. Donc ça va être très compliqué quand même de nous dire à nous aujourd'hui qu'en fin de compte la démocratie se fait normalement et qu'il n'y a pas de souci, que derrière tout ce qu'on dit en ce moment aux cheminots et aux Français va se réaliser. C'est tout le contraire en fin de compte.
Question d'Hakim Kasmig, donc, est à vos côtés.
Alors Bruno Poncet, aujourd'hui il y a encore 48 heures avant le rendez-vous à Matignon vendredi. Aujourd'hui, clairement, il faut une commission tripartite, il faut tout remettre à plat pour vous. Cette réforme a été mal préparée.
Comme elle a été mal préparée et qu'en plus cette réforme ne répond à aucune des questions réelles du ferroviaire, nous on dit qu'il faut retirer cette réforme, il faut arrêter avec cette réforme qui est pas bonne et qui est en plus mauvaise pour tout le monde, et puis il faut en remettre une autre sur la table qui améliorera les conditions de circulation et des usagers, qui remettra du financement dans le réseau, qui permettra au train du quotidien d'être mieux pourvu. C'est ce que les gens veulent. Les gens, ils veulent pas aujourd'hui une réforme qui leur explique que la dette, on va la reprendre un petit peu par bout. Et en plus, ça va être un montage qui risque d'être compliqué, sachant qu'on nous parle de deux séances aussi. Enfin bon, c'est assez. Il y a rien là-dedans. Il y a rien de net.
Donc, ce référendum va réouvrir sans doute le jeu. On va voir. Pour l'instant, pas de réponse, pas de commentaire, en tout cas, qui est fait du côté de la direction ni du gouvernement à propos de ces chiffres, donc de la votation de ce matin que nous venons de commenter. Merci Bruno Poncet d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. J'ajoute que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce que la moitié du prix des passes Navigo vont être remboursés par la SNCF pour les mois d'avril et de mai pour compenser, je cite, les désagréments liés à la grève en pointillé entamée en avril par les cheminots. L'actualité française encore avec le Conseil des ministres ce matin et la suite de la réforme des institutions, deux semaines après le texte constitutionnel qui était essentiellement consacré, on s'en souvient, à l'indépendance de la justice et au pouvoir du Parlement. Deux autres projets de loi donc étaient en discussion ce matin, une loi simple et une loi organique. Les différents textes prévoient donc cette fameuse réduction de 30% du nombre de parlementaires pour aboutir à 404 députés contre 577 actuellement. Et 244 sénateurs contre 348. Et pour appliquer la dose retenue aussi de 15% de proportionnel, ça fait donc 61 députés qui vont être élus sur des listes nationales. Enfin, au nom d'un objectif de renouvellement, il y a aussi la limitation du cumul dans le temps à 3 mandats, ça veut dire 15 ans pour les députés, 18 ans pour les sénateurs. Le chef de l'État défend un Parlement moins nombreux mais renforcé dans ses moyens, tandis que à droite aussi à gauche, on critique une diminution globale du nombre de représentants du peuple. Ça crée des députés un peu hors sol, dit-on, des circonscriptions très larges, XXL. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, comment se présente maintenant l'avenir parlementaire de ce texte, puisque le texte va évidemment être débattu et peut-être voté au Parlement?
Eh bien, ça s'annonce difficile, car ça bloque du côté du Sénat, et plus particulièrement de la majorité de droite au Sénat. Le problème est que pour diminuer de 30% le nombre de parlementaires et pour limiter à 3 le nombre de mandats consécutifs et identiques qu'il serait possible d'enchaîner, il est nécessaire de passer par une loi organique. Et en l'occurrence, si ça concerne les sénateurs, et là c'est le cas, il faut que le Sénat l'adopte à la majorité. C'est la raison pour laquelle il y a des négociations qui durent depuis des mois entre le président du Sénat et Emmanuel Macron, et que Gérard Larcher, au fur et à mesure que se déroulent ces discussions, organise des conférences de presse pour fixer ces lignes rouges. Non, 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 ça, il ne peut pas l'accepter, c'est hors de question. De toute façon, ça ne passera pas. Et si Macron veut faire passer sa réforme, il ne pourra pas le faire sans lui, Gérard Larcher. Pour comprendre ce qui coince, il faut voir la logique et les intentions qui se cachent derrière les différentes dispositions de cette réforme. Il y a aujourd'hui un gros problème avec les parlementaires, vous explique-t-on dans le camp Macron. Ils passent plus de temps dans leur circonscription à draguer leurs électeurs pour se faire réélire qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat où ils sont censés fabriquer la loi. Partant de ce constat, on réduit le nombre de parlementaires et on introduit une dose de proportionnelle, ce qui a pour effet mécanique d'agrandir considérablement les circonscriptions. Pour les députés, par exemple, on va passer d'un député pour 116 000 habitants aujourd'hui à un député pour plus de 200 000. C'est la même logique pour les sénateurs. Résultat, ils ne passeront plus leur temps à faire campagne dans d'immenses circonscriptions et comme ils seront moins nombreux, il y aura plus de travail pour eux à Paris. Ah oui, mais ça rétorque un certain nombre de députés et les sénateurs récalcitrants. Ça aurait pour effet de déconnecter les citoyens de leurs représentants et les parlementaires de leur territoire. Ils se feraient réélire uniquement grâce à l'étiquette politique qu'on va leur coller sur le front et deviendraient dès lors des techniciens de la politique coincés dans leur bureau à Paris et pleinement dépendants du bon vouloir du gouvernement et de l'exécutif. C'est la raison pour laquelle certains parlent d'un renforcement du pouvoir central et du pouvoir du président et d'un affaiblissement du rôle du Parlement. En plus, ça instaure une compétition car de nombreux élus ne pourront pas se représenter. On voit donc bien la logique, pourquoi ça frotte, pourquoi ça coince. Et en l'état actuel des choses, on ne voit pas bien comment cette réforme pourrait aboutir, sauf à décider de consulter directement les Français par référendum et à se passer de l'avis des parlementaires et notamment des sénateurs.
Stéphane Robert, merci beaucoup. La plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup avec le ministère de l'enseignement supérieur qui donne quelques chiffres. Environ 436 000 candidats inscrits ont reçu au moins une proposition depuis hier soir. Ça fait plus de la moitié donc des lycéens de terminale et étudiants en réorientation qui étaient inscrits. Plateforme qui est actualisée donc chaque matin pour prendre en compte les évolutions des listes d'attente. Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération, ne paraît pas du tout convaincu par ce nouveau système. Il a même appelé ce matin sur France 2 les bacheliers à demander des comptes au gouvernement sur ce système qu'il qualifie d'opaque, qui trie et qui laissera certains bacheliers sans affectation, selon lui, donc à la rentrée prochaine. On l'écoute.
Pour l'instant, on a une communication du gouvernement qui nous a dit avec Parcoursup, tout ira mieux. Et beaucoup de gens qui disaient, ce qui s'instaure, c'est la sélection à l'entrée de l'université, avec des présidents d'université qui mettront en place des critères qui empêcheront probablement des bacheliers d'accéder à l'enseignement supérieur. C'était la critique qui était formulée. Pour l'instant, ce que j'observe, c'est que 400 000 élèves qui préparent le bac apprennent, avant même d'avoir passé le bac, qu'ils ne savent pas s'ils poursuivront leurs études après leur bac. Le gouvernement dit, circulez, il n'y a rien à voir, tout se passera bien. Personne n'aura de nom. Or, nous savons qu'avec le nouveau système, les critères mis en place par des présidents d'université, que personne ne connaît, qui sont dans l'algorithme de Parcoursup, amènent à ce que on ne sache pas pourquoi un tel est accepté, tel autre est refusé. On apprend que certaines universités font du surbooking, comme on en fait aujourd'hui sur les compagnies aériennes. C'est-à-dire qu'on donne 200 oui, alors qu'on n'a que 50 places disponibles, en espérant qu'à la fin, certains se soient désistés. La réalité, c'est que ce système est opaque, ce système trie, il sélectionne selon des critères qu'on ne connaît pas pour les présidents d'université et pour les universités, et ça pose un problème.
Voilà, Benoît Hamon sur France 2, donc avec Caroline Roux ce matin. Un an après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, les indicateurs économiques restent moyennement encourageants avec un taux de chômage qui est enregistré par l'INSEE et qui repart à la hausse au premier trimestre de cette année, s'établit à 9,2%. Une croissance dans le secteur privé qui ralentit plus que prévu ce mois-ci en France pour atteindre un plus bas depuis début 2017, tandis que le ralentissement de l'économie se confirme dans l'ensemble en fait, de la zone euro. Pierre Coquelin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors malgré les discours répétés, on entend souvent sur cette reprise économique qui est là, qui va repartir, la manifestation de cette relance, de cette reprise reste assez ténue pour l'instant.
Oui, disons que ça repart mollement. Hein. Déjà depuis plusieurs mois, la croissance a été révisée à 2,2% en 2017. On devrait être légèrement en deçà cette année, autour de 2% selon les prévisions. C'est certes moins que les chiffres d'avant la crise. On n'est pas sur les 3,9% de l'an 2000 ou les 2,8% de 2004. Mais rappelez-vous, en 2012, la croissance n'était que de 0,2%. Une manière de dire qu'on revient quand même de très loin. Symbole de cette reprise poussive, le taux de chômage. Alors, il reste à la baisse sur un an, de 0,4 points pour être exact. Mais c'est vrai qu'après la décrue du dernier trimestre 2017, où il s'était établi à 9% de la population active, son plus bas niveau depuis près de 9 ans, certains ont pu céder à l'emballement. Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, il faut rester mesuré sur ces chiffres, aussi bien celui du dernier trimestre 2017 que celui publié ce matin par l'INSEE. Un accident de mesure plus que quelque chose de véritablement significatif, pour reprendre les termes du directeur de l'OFCE. Selon lui, il y a quand même de l'espoir si on regarde sur le temps long, même si l'activité a ralenti au premier trimestre de cette année. Nous sommes dans un contexte de création d'emplois plutôt forte, 268 800 en 2017. On devrait glisser progressivement vers les 300 000 créations, ce qui, selon l'OFCE, permettrait d'absorber les nouvelles arrivées sur le marché du travail. Sans doute pas un produit miracle, mais au moins un palliatif sur le long chemin de la baisse du chômage.
Voilà, s'il n'y a pas trop d'accidents de mesure. Merci Pierre Coquelin. La Commission européenne propose ce matin de sortir la France de la procédure pour déficit excessif qui avait été ouverte contre elle en 2009, commentaire de Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques, c'est un moment important. La fin de 9 années de procédures longues, pénibles et d'efforts budgétaires parfois douloureux, mais nécessaires. Fin de citation. Tech for Good, c'est le nom qui a été trouvé par l'Elysée pour qualifier une réunion qui se tient aujourd'hui de 60 dirigeants, investisseurs intellectuels de la tech française et mondiale, donc Tech for Good. Autrement dit, il faut mettre la technologie au service des biens communs. Parmi les invités du chef de l'État, on peut citer les PDG de Facebook, de Microsoft, d'Uber, d'IBM, mais aussi des patrons d'entreprises françaises comme Free, Orange, SNCF, Sanofi, BNP Paribas ou encore Thales. Alors Monsieur Macron veut tous les convaincre de leur intérêt à se mettre au service de ce fameux bien commun. Evan Lebastard, bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est le raisonnement du chef de l'État qui permettrait de les convaincre?
Ce sommet de la tech mondiale doit faire d'Emmanuel Macron le chef d'État du numérique, celui qui compte pour les géants du web, ce qu'on appelle les GAFA, avec qui les relations se sont tendues ces dernières années. D'abord sur le sujet des données personnelles, ce qu'a montré le récent scandale Cambridge Analytica, mais aussi la fiscalité. Emmanuel Macron a promis de mieux taxer les géants du numérique. Ces derniers payent environ 9% d'impôts contre 23% pour les autres entreprises. L'Elysée assure que ces sujets ne seront pas éludés et que le président aura avec ses grands patrons une discussion sans tabou, franche et directe. L'idée, c'est que la révolution numérique ne se fasse pas sans l'État. Mais en organisant une rencontre de ce genre, Emmanuel Macron n'invente rien. En 2011, déjà, Nicolas Sarkozy avait rencontré le PDG de Facebook lors d'un sommet similaire à Deauville. Ce dernier est alors sous le charme et dit « C'est la première fois que je comprends aussi bien quelqu'un qui ne parle pas ma langue ». Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut s'imposer comme le chef d'État qui parle la langue de Zuckerberg et provoquer des annonces qui devraient être faites dans l'après-midi. Reste à savoir l'ampleur de ces dernières. On sait déjà qu'elles seront majoritairement sur le thème du progrès social pour mettre la technologie au service du bien commun, selon la formule de l'Élysée, qui insiste « On ne veut pas que des déclarations, mais aussi des preuves d'amour ».
Evan Lebastard, merci. En Italie, alors que le président Mattarella semble temporiser pour nommer le futur chef du gouvernement, le chef de file du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, affirme que Giuseppe Conte reste pour l'instant le candidat du mouvement et de la Ligue, donc pour la présidence du Conseil. Et puis la Commission européenne qui demande à l'Italie ce matin une réponse crédible sur sa dette publique. Une conférence sur l'avenir de l'Europe est organisée à Budapest sous l'égide du gouvernement nationaliste de Viktor Orban dans le cadre du groupe de Visegrad. C'est une organisation qui est de coopération entre les pays d'Europe centrale qui est actuellement présidée donc par la Hongrie et le Premier ministre affiche de plus en plus ses affinités avec l'extrême droite du monde entier. Florence Labruyère.
Toute la crème identitaire et ultranationaliste se retrouve à Budapest pour une conférence patronnée et financée par le gouvernement de Viktor Orban. L'invité vedette est Steve Bannon. L'ancien stratège en communication du président américain prononcera un discours intitulé « L'Amérique d'abord et son impact sur l'Europe centrale ». À la tribune, il y aura aussi des historiens ultra-conservateurs venus de Pologne et l'ancien président de la République tchèque, le très eurosceptique Václav Klaus. La grande organisatrice est Maria Schmidt, une fidèle de Viktor Orban et une historienne controversée. Ses déclarations sur les Juifs, qui auraient une part de responsabilité dans la Shoah, lui ont valu d'être taxée de négationnisme. Maria Schmidt voue au bûcher le libéralisme occidental et elle a invité à Budapest tous les chevaliers de la pensée identitaire et même Milo Yiannopoulos, le journaliste américain devenu l'icône des ultra-conservateurs. Mais Yiannopoulos n'est pas seulement un anti-progressiste aux déclarations fracassantes contre les femmes, contre les musulmans et les noirs. Il fait aussi l'apologie de la pédophilie et déteste la religion. De quoi faire tomber en syncope les conservateurs polonais et hongrois. Impossible de réunir tout ce beau monde dans la même salle. Maria Schmidt a donc renoncé à inviter Yiannopoulos à la conférence qui débute aujourd'hui. L'historienne a organisé une deuxième manifestation vendredi. Le sulfureux Milo Yiannopoulos sera le seul intervenant.
Dans le reste de l'actualité, à l'étranger, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian répète ce matin que l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas mort et il évoque un désaccord à la fois sur le fond et sur la méthode avec Washington. À Téhéran, pendant ce temps, le chef d'état-major des forces armées affirme que l'Iran n'a pas à obtenir d'autorisation pour développer ses capacités militaires et ne cédera pas donc aux exigences des États-Unis, évoquant une autre des exigences formulées avant-hier par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le vice-ministre syrien déclare, lui, de son côté, que le retrait des forces iraniennes présentes en Syrie n'est pas un motif de discussion. Les journalistes étrangers en route pour couvrir la destruction du site nord-coréen d'essai nucléaire. C'est un geste de bonne volonté avant ce sommet historique avec Donald Trump. Donc, le Nord avait annoncé le mois dernier qu'il allait détruire ce site en faisant exploser les tunnels d'accès. Annonce saluée évidemment par Washington et Séoul. Démantèlement censé intervenir donc entre aujourd'hui et vendredi en fonction de la météo. On revient sur la mort de Philippe Roth, donc à l'âge de 85 ans, avec la réaction de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui parle d'une des légendes de la littérature américaine, de la déflagration lubrique de Portnoy au pessimisme ultime de Némésis et de sa trilogie américaine en passant par La Tâche. Roth n'a eu de cesse, dit-elle, de sonder les failles et les tares de ses contemporains avec une truculence de la langue et une jubilation romanesque sans égale. Bonjour Maëlle Ripéré-Ferraud.
Bonjour Antoine.
Alors on rend hommage évidemment toute la journée à Philippe Roth sur France Culture et nous, vous avez lu pour nous les premiers grands papiers de la presse américaine ce matin.
Et ce qui ressort de l'avalanche d'hommages, c'est la difficulté à classer Philippe Roth pour la presse américaine. Américain, juif, les deux, mais dans quel ordre? L'imposant romancier qui a exploré le désir sexuel, la vie juive et l'Amérique meurt à 85 ans. Dans son titre, le New York Times rassemble les totems de celui qui fut souvent la mauvaise conscience de cette Amérique de luxure, de racisme ou d'hypocrisie, puritaine dans La Tâche, ravagée par la guerre du Vietnam d'un pastoral américaine. Un auteur prolifique et protéiforme raconte le quotidien de New York qui n'a cessé d'explorer ce qu'est être un Américain, un Juif, un écrivain, un homme. C'était le dernier des grands mâles blancs, écrit Charles McGrath dans sa nécrologie, de ce triumvirat d'écrivains, Saul Bellow et John Updike étant les deux autres, qui ont dominé les lettres américaines dans cette seconde moitié du XXe siècle. C'est vrai qu'il a exploré l'Amérique et l'américanité, écrit le Washington Post, mais à travers le filtre de l'histoire du XXe siècle. Il a écrit sur la réponse américaine à l'Holocauste, mais aussi sur ses effets sur Israël, sur l'Europe centrale et orientale. Il a parlé de la peur de la vague communiste aux États-Unis, mais a également étudié son influence culturelle à Prague. En fait, poursuit le Washington Post, il pouvait écrire sur le monde parce qu'il était réellement cosmopolite, un citoyen du monde enraciné dans la culture américaine. Nous y voilà. Dans leur hommage, les journaux américains, qui le saluent tous comme un monument, hésitent à faire de Philippe Roth un Américain, mais ne veulent pas le lâcher non plus complètement au monde. Dans ces dernières années, se rassure le Washington Post, il s'est intéressé aux sujets américains, Nixon ou encore le scandale Clinton-Lewinsky, rappelant qu'il ne drainait pas que les cercles littéraires dans son sillage, mais enthousiasmé aussi Bruce Springsteen, natif également du New Jersey. Tous à l'image du Los Angeles Times, rappelle que Philip Roth était l'écrivain américain le plus primé, ayant remporté le plus de prix prestigieux, hormis le Nobel. Mais tout cela finalement, disait-il au New Yorker à la fin de sa vie, ce n'est pas très important, ce qui compte c'est d'être juste, tout le reste n'est que la comédie humaine, les évaluations, les listes de prix, les mauvais articles, les insultes comme les louanges.
Marie-Pierre Véraud, merci. Dossier spécial donc sur la vie et l'œuvre de Philippe Roth sur le site de France Culture. Le temps toujours orageux, sauf sur la pointe de la Bretagne ainsi que sur la côte landaise, le midi toulousain et aussi les rivages du golfe du Lion, donc épargnés par les orages. Il va se maintenir là-bas un temps calme et ensoleillé, température entre 20 et 26 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal est à 18h avec Florence Turne.